19h44, la séance publique débute maintenant.
On est en train.
Reçu l'ordre du jour que vous avez devant vous. Je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter ou des sujets à inscrire à l'ordre du jour dans les points affaires nouvelles ou affaires municipales? Sinon, Marco Dénommé fait la proposition. Merci, Marco. T'es rapide. Appuyé de Bruno Boyer. Merci, Bruno. Daniel, tu suis les loges corporatives. Merci. Alors, au point 3, c'est le mot de la précepte. Dans le contexte, j'avais quelques éléments d'information à vous livrer qui ne font pas partie des sujets qu'on a lors du jour. Mais la première chose, c'est je vais accueillir les nouveaux maires qui sont autour de la table. Le maire de Notre-Dame-du-Nord qui a été réélu, le maire de Fugerville qui a été réélu, le maire de Béarn, le maire de Fabre, le maire de Belle-Terre. Félicitations. Félicitations aussi à Daniel Barrette, Aline H. C'est dommage, Vincent, j'aimerais ça te le dire, puis j'espère qu'on le dira à un moment donné. À Marco et à M. Boutillet. Félicitations également à Alexandre, qui a été tous des nouveaux maires réélus dernièrement, tout comme Patricia, la présidente du comité municipal à Laniel. Alors, félicitations à tout le monde. Puis, vous avez déjà largement contribué, mais je suis convaincue que vous serez encore très présent pour la MRC dans les 4 prochaines années. Dans ce contexte-là, ben oui, j'étais rendue là, merci. On a un cerveau pour deux, nous. Hein? Alors, merci. Bienvenue, Martin Lefebvre. Non. Bienvenue parmi nous. On est très, très contents de t'avoir avec nous pour les 4 prochaines années. Tu avais déjà participé à 2 ou 3 rencontres du conseil, alors sans dire que tu es aguerri, tu sais à quoi t'attendre.
Oui.
Et on a toujours notre Carmen préférée pour ce soir. Alors là, c'est vraiment la dernière. Et en tout cas, merci d'être là. Je voulais aussi vous mentionner que la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, à qui la MRC a confié le soin de gérer le programme, le Fonds québécois d'initiative sociale pour lutter contre la pauvreté, ont lancé un communiqué de presse cette semaine. Un communiqué de presse qui rappelle les 7 projets témiscamiens qui ont été acceptés, adoptés pour permettre ou faciliter le développement social. Vous avez en main le communiqué de presse qui a été émis. Si vous vous souvenez, on adopte, nous comme MRC, on a mandaté la Corporation de développement communautaire pour ces actions-là. Et nous, on adopte les recommandations qu'ils nous font comme sur les projets qu'ils souhaitent appuyer.
Il y a des visiteurs qui étaient venus pour la réunion.
Ils sont rentrés? Ils sont en arrière?
Oh, excusez-moi.
Il y a quelqu'un qui s'inquiétait que vous ne soyez pas là. Alors, dans le contexte, la Corporation de développement communautaire a émis un communiqué et on vous l'a partagé parce que c'est important. C'est un des mandats de la MRC qu'on souhaite partager avec des organismes qui ont les compétences pour agir dans ce dossier-là. Dans le contexte, je vous invite aussi, il y aura des débats dans plusieurs municipalités, mais la semaine prochaine, mardi prochain, le 26, le consortium des médias témiscamiens, en collaboration avec Radio-Canada, vont tenir un débat sur l'élection à la préfecture. Le débat va réunir les deux candidats qui sont devant l'électorat pour l'élection à la préfecture, c'est-à-dire moi-même et M. Renal Barry. De 7h à 8h mardi prochain, ce sera diffusé sur les ondes de CKVM et ce sera également diffusé dans les pages Facebook Live de la MRC, de CKVM, de TVTMIS. Et c'est ça. C'est les trois qui devraient être C'est les trois médias, page Facebook, qui devraient le diffuser. Alors, je vous invite à être à l'antenne, être à l'écoute. C'est nous que ça concerne. Sinon, je vais vous souligner comme ancienne préfète, comme préfète sortante, que j'aime beaucoup le travail qu'on fait au niveau de la préfecture. J'aime beaucoup le travail qu'on fait directement pour la population. Et je l'ai répété souvent, on avait une chance incroyable d'avoir un très beau conseil de la MRC dans les 4 dernières années. Je suis convaincue qu'on aura encore un très beau conseil pour les 4 prochaines années. Mais tous les efforts requis pour être la prochaine nouvelle préfète. Alors, c'est assez clair. Sur ce, on passe au point adoption du procès-verbal. Vous aviez deux séances, la séance du 15 septembre et la séance du 7 octobre. Les deux procès-verbaux vous ont été transmis. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que le contenu du procès-verbal du 15 septembre est fidèle à nos discussions? Est-ce que vous avez des modifications, des corrections? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption.
Dans le premier, je suis coquille, là, c'est Simon Lingot et Simon Gémy qui ont donné. C'est juste ça que j'ai vu.
Mon gras. Puis tu vois, je l'ai relu tout, puis ça, je l'avais pas vu.
Il y a juste ça que j'ai vu. C'est niaiseux, mais bon, c'est une coquille quand même.
Lequel des deux?
Mon gras, ben oui. Maire de Lorainville. On va te rebaptiser, Simon. On va te rebaptiser. Alors, Simon Gélina, merci. Sinon, on fait la modification, sinon c'est conforme à nos délibérations. Est-ce que j'ai une proposition pour adopter le procès-verbal? Lynn H. Vincent Gingras, merci. Et le procès-verbal du 7 octobre, est-ce que c'est fidèle à nos délibérations? Marco, appuyé deux.
C'est une erreur.
Une pour les deux? Ah bon? Une seule résolution pour les deux?
Oui.
Ah bon? Alors, on a une seule résolution pour les deux. Moi, je pensais qu'il fallait les adopter.
C'est quoi l'erreur?
Verbal, papa.
Ouais, il y a une erreur. Il y a 2021 qui est écrit en double, là, la information suivie des grandes priorités 2021. C'est un paragraphe.
Dans le 15 septembre, dans le 7 octobre?
Le 7 octobre.
Un peu, là.
Page 3.
En priorité, où ça te saute? Ça, Marco, je le trouve pas.
OK, je vois.
Ah, bon,
C'est dans le BAP jusqu'au 22 décembre 2021 pour déposer le rapport.
OK. Ben, ça, c'est dans le 15 septembre.
Oui.
Ah, ben, je n'étais pas dans le bon.
Ah, c'est moi,
non,
c'est pour ça que c'est dans la tête. Excusez.
Non. Alors, on avait une seule résolution. T'es sûr qu'on peut les adopter ensemble? Alors, on va passer à la période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions par les gens qui sont dans l'assistance? Pas de questions? Parfait. Donc, on va aller directement au point 6, le suivi des grandes priorités de la MRC. Alors, connectivité, les grandes priorités de la MRC, on a le point sur la connectivité. Donc, vous êtes informé que Vidéotron est en train de compléter les listes d'adresses. On a eu la rencontre avec eux en septembre dernier et le 22 septembre, et ils sont en train de compléter les listes municipalité par municipalité. On est une des MRC qui est le plus avancée avec Vidéotron là, dans cet exercice-là de valider, de compléter les listes. Et en contexte, s'il y a des sommes supplémentaires à demander pour les adresses supplémentaires qui seront identifiées, on est en bonne position pour le faire, pour faire ces demandes-là. Il y a eu une précision aussi au niveau de la rencontre qu'on a eue avec Vidéotron. Plusieurs des citoyens contactaient l'entreprise au numéro général qui nous avait été fourni. Et ceux qui répondaient aux appels des citoyens ne possédaient pas l'information, avaient moins d'informations que nous, on avait localement et que Vidéotron partageait avec les gens qui ont assisté aux rencontres. Alors, on leur a mentionné que ce serait important que l'information soit complète de la part des gens qui ont à répondre au public. Le commentaire a été fait assez directement et assez largement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Peut-être qu'on pourrait fermer la porte, s'il te plaît. Vincent?
Ouais, ben, dernièrement, comme l'émission, on fait des travaux un peu partout, puis on nous donne maintenant la possibilité de se brancher à leur réseau. C'est de la fibre, c'est Internet haute vitesse.
50-10?
Oui, mais ben, ils disent jusqu'à 200 Mbps, je pense, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, ben, est-ce que ça compromet le branchement par Vidéotron ou parce que là, ils ont fait ça à la Tulip, ils ont fait ça à Moffett, je crois.
Gerville aussi.
Et là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que Vidéotron ne viendra plus sur nos territoires ou je comprends pas, là, c'est sûr que c'est une belle tactique, là.
Ben, en fait, c'était des projets, puis c'est ce que M. Chartrand a expliqué au moment de la rencontre. C'était des projets qui avaient déjà été attribués à Cablevision, à Bell, qu'il n'avait jamais réalisé.
Ouais,
là, il y a l'obligation de les réaliser. Le gouvernement oblige l'entreprise à faire les travaux pour lesquels il avait obtenu les subventions.
OK.
C'est incroyable qu'on laisse qu'on attribue des contrats puis qu'on laisse traîner ça pendant 6 à 7 ans avant de faire les
travaux. Attribué en 2018. Tu as raison, c'est inacceptable que ça traîne. C'est pas 6 à 7 ans, là, mais tu as raison, c'est inacceptable. Il y avait le mandat qui ne l'a pas fait avant. C'est préoccupant.
Et nous autres qui ont la misère.
Pendant ce temps-là. Ouais. Il y avait Alexandre, tu voulais intervenir?
Oui, en fait, je me posais cette même question-là pour la Tulipe parce que je sais que Moffett et six autres lieux en Abitibi-Témiscamingue avaient eu ce projet-là. Je pense que c'était fin 2017 là, avec Cablevision. Il y avait jusqu'en 2022 pour le faire. Puis quand j'avais posé la question, c'était effectivement que le gouvernement n'allait pas payer deux fois pour brancher les mêmes adresses, là. Mais dans le cas de la Tulipe, il ne faisait pas partie de ce projet-là. Fait que là, je me posais la question, est-ce qu'ils sont en train justement de se dépêcher à brancher des villages, les endroits plus faciles à brancher pour enlever des parts de marché à Vidéotron? Tu sais, je pense que le service est quand même... c'est du câble coaxial quand même. Là. Il y a de la fibre qui va jusqu'au village dans un nœud optique. Ensuite, c'est du câble coaxial qui va jusque dans les résidences, ça donne justement 250 MB, je pense, en download, mais ce n'est pas aussi performant nécessairement que l'offre de Vidéotron à 400 MB, qui, elle, c'est de la fibre optique jusqu'à la maison. Fait que je trouvais ça particulier à savoir qu'est-ce qui se passe entre maintenant et septembre 2022 pour les villages qui seraient branchés. On voit qu'ils peuvent être rapides quand ils veulent quand même. Ils prennent leur temps, puis en bout de ligne, ils sont très, très rapides. Là. Mais,
est-ce que tout le monde voit Alexandre, parce qu'il est à côté sur la colonne? Là, je viens de... On pourrait l'écrire.
Non, mais c'est correct. Là,
On le voit.
La question de Vincent, je me la pose. Je ne sais pas si ça va se passer dans d'autres villages aussi.
Ma crainte, c'est qu'on va faire quelque chose de moins performant que qu'est-ce qui est supposé d'arriver avec Vidéotron. Puis, encore une fois, on va payer le même prix ou peut-être même plus cher pour quelque chose qui va être moins performant. Ça, je trouve inacceptable.
Dans le contexte, on va poser la question pour Fugerville, pour les autres municipalités, entre autres Duhamel-Ouest, tout ça, ça avait déjà été annoncé. On va faire la vérification pour la Tulipe. On va faire la vérification dès demain matin. Dès qu'on les rejoint.
Mais tu sais, je pense qu'en premier, il faut qu'ils branchent les endroits qui ne sont pas branchés, mais il n'y a rien qui les empêche, une fois que le projet est terminé, de venir brancher quand même tous les villages et les endroits où est-ce que... Parce que Cablevision est installé, mais je pense que dans un premier temps, ils ne pourront pas de ce que je comprends, là, c'est qu'ils ne pourront pas le faire.
Exactement ça. Dans un premier temps, Vidéotron a le devoir de déployer la fibre vers toutes les adresses. Une fois ça fait, les adresses où Vidéotron aura déployé la fibre auront accès au service Vidéotron. Les autres qui sont branchés avec Cablevision ne pourront pas avoir accès à Vidéotron tout de suite. C'est une fois que tout aura été terminé que Vidéotron est là le service compétitif pourra s'installer. Mais pour ce que tu demandes, Vincent, on va faire la vérification très, très rapidement. On reviendra auprès de tous les membres du conseil avec cette information-là. Ça vous va?
Excusez.
Oui.
Je retarde, là.
Non, pas du tout.
Si c'est comme les tours, est-ce que Vidéotron ne se servira pas de la route de...
Non? Non, c'est...
La fibre de... Oui.
Les tours, c'était pour le signal, c'est parce que c'était un signal le Wi-Fi. Là.
Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Vidéotron, est-ce que Vidéotron va pouvoir se servir de la fibre optique que Cablevision a passée?
Oui. Vidéotron peut pas servir. Il déploie la fibre là où il n'y en a pas. Une fois que les fibres sont déployées, le service peut passer par un ou l'autre.
C'est ça que je veux dire. Oui.
Dans un premier temps, ils ne peuvent pas. Mais ça. Après, ils peuvent.
Une chose est sûre, c'est qu'il faut dire aussi à notre clientèle, qui sont nos gens, le pouvoir de négociation, même présentement, il est bon. Là, appelez vos services, là. Que les gens, oh, ben là, moi, là, ton téléphone, Bill, il est rendu trop cher. Je vais aller là où. Vous allez voir la bargain que vous allez avoir demain.
Forfait cellulaire pour pas Internet.
C'est surprenant comment ils sont plus tempérants, un peu. C'est moi, je fais un petit mot. Mot, tu l'as, toi.
Hey. Une fois que c'est organisé, une fois que le réseau sera installé, là, et une compagnie ou l'autre qui a amené la fibre, peu importe, le service pourra être accessible par un ou l'autre des distributeurs. Mais dans un premier temps, ceux qui n'avaient pas accès à Internet, c'est Vidéotron qui va les desservir. Dans un premier temps. Et ceux qui avaient Cablevision, c'est Cablevision qui va les desservir. Après, deuxième phase. Ça répond à ta question?
Merci.
Vincent, on fait les vérifications. On avise tout le monde sur l'état de situation. Ça va pour tout le monde? Comment tu dis? Ça te fatigue. C'est ça. Suivi des grandes priorités, les agricultures innovantes et la révision du PDZA. Vous avez vu, le PDZA, on l'a adopté. Vous avez vu qu'on est quand même, il y aura quelques interventions à la Semaine verte, entre autres en novembre. La Semaine verte qui était chez nous cet été, qui a fait des reportages, qui s'est promené pas mal sur le territoire ici et dans plusieurs municipalités. Et le 26 octobre prochain, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'UPA régionale, la Fédération régionale. J'assisterai à cette rencontre-là le 26 octobre dans la journée. Je serai revenue à temps pour le débat des candidats le soir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les agricultures innovantes actuellement. Il y a quand même beaucoup de si vous suivez un peu l'actualité, la question agricole, la question de la préoccupation sur les pesticides et prend beaucoup de place dans l'actualité à plusieurs égards. Alors, je pense qu'avec notre pôle d'excellence sur les agricultures innovantes, on a bien frappé là, sur la suite des choses. Des questions là-dessus? Alors, on passe à l'autre, la stratégie d'attractivité. C'est en lien avec nos campagnes promotionnelles de l'année dernière. Il y aura une rencontre vendredi pour identifier l'appel de identifier les éléments et les firmes qui pourront nous organiser un appel de projet pour les prochaines campagnes promotionnelles, celles qu'on va sortir au printemps prochain. En attendant, il y a quand même une découverte extraordinaire qu'on a faite, Lynn et moi, dans les deux, trois dernières semaines. On a découvert qu'il y a du talent caché à la MRC et j'ai déjà annoncé à nos talentueuses qu'on allait abuser de leur capacité. On a eu une demande pour produire une vidéo dans un délai extrêmement court pour une conférence qui sera donnée. Je vous en parle à la fin de la rencontre de cette conférence-là, mais la vidéo a été produite à l'interne de la MRC et c'est une qualité de production. On a répondu aux objectifs qui étaient soumis et c'est une qualité de production qu'on n'a rien à envier à des grandes firmes. Alors, je vous en parle à la fin de la rencontre, mais on s'est aperçu que on a des talents qu'on ignorait, mais qu'on n'ignorera plus, dont on va abuser. On va les vampiriser. Alors,
c'est tellement Halloween. Hein?
C'est quasiment ça. Mais pour l'attractivité, on est en mode organisation des actions pour le printemps prochain, tant pour faire connaître le territoire et qu'on en parle, que pour l'attractivité touristique. Et l'angle supplémentaire qu'on donne cette année, c'est comme on en avait discuté, c'est le respect. C'est dire qui on est et inviter les gens à nous découvrir dans le respect de ce que nous sommes. Alors, pas d'autres questions là-dessus? Donc, on va passer au suivi d'enjeux ponctuels. Soins de santé. On a, ça a bougé les soins de santé dans les, mettons, dans les 6 derniers jours. Le ministre de la Santé s'est déplacé vers Sainte-Terre vendredi dernier. Ça n'avait pas été annoncé beaucoup d'avance. Nous, les 5 préfets de la région, on est avisé à 7 heures le matin, vendredi matin, la visite du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé ne souhaitait pas nous rencontrer. Il voulait rencontrer essentiellement, y aller à Sainte-Terre pour rassurer la population sur les soins de santé là-bas. On sait que l'urgence de Sainte-Terre ferme 16 heures sur 24. Et dans ce contexte-là, le ministre avait deux objectifs. Un, réaffirmer sa confiance en la PDG du CITAP, mais aussi rassurer la population et demander qu'on révise l'exercice qui amenait à la fermeture importante là, des heures d'ouverture de l'urgence. Le ministre ne voulait pas rencontrer le président de la conférence des préfets. Il a quand même accepté de rencontrer Martin Ferron, le président, et lors de la rencontre, Martin lui a rappelé l'importance de notre répartition régionale des soins de santé, l'importance de ce que nous, on appelle notre modèle régional, où des soins de santé sont bien répartis partout sur le territoire. Et il lui a rappelé aussi l'enjeu des services ambulanciers, qui est un enjeu concret, réel dans notre région, étant donné les distances à parcourir. Dans le contexte du discours inaugural de M. Legault cette semaine, mardi, il a annoncé qu'il allait revoir l'organisation des soins de santé, qu'il allait décentraliser, augmenter la régionalisation de l'organisation des soins de santé. Je vous rappelle que c'est une revendication qu'on fait depuis presque 3 ans maintenant. Je vous rappelle aussi que c'est une revendication qu'on a traduit 2 fois plutôt qu'une sous forme de résolution qu'on a transmise au ministère de la Santé. Une résolution où on demande que la gouvernance locale soit assurée dans nos locaux. Le CITAP souhaitait connaître notre position par rapport au CIS. Et lorsqu'on en a discuté, on a convenu qu'on continue à travailler avec le CISAP, comme on le fait depuis plusieurs mois avec eux, en situation de pandémie puis autrement dans l'organisation des services, que ça n'appelle pas nécessairement une résolution nouvelle. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur ce point? Ça va pour tout le monde? Alors, le message qui sera fait au CITAP sera qu'on continue à travailler avec eux autres, mais qu'on a très bien entendu et qu'on est content du fait que de l'annonce du premier ministre de revenir à des services et des gouvernances de soins de santé plus décentralisé. Alors, je laisse maintenant la parole à Daniel pour la démarche du complexe des eaux profondes.
Vous avez envoyé un petit rapport à toute la gang. Vous envoyez un tableau là-dessus. Sur le tableau, il faudrait rajouter la ville de Belle-Terre a contribué. Je marquais là-dedans que c'était à venir. La ville de Belle-Terre a contribué. Il va nous rester 2 municipalités à voir, ce qui est Notre-Dame-du-Nord, ça devrait passer au 15 novembre. Et la force qu'on n'a pas eue de nouvelles présentement. On a atteint notre objectif qui était fixé de 40 000 $ des municipalités. Ça fait que les membres du conseil sont très heureux de ça. Ils remercient l'ensemble des municipalités pour l'importance qu'ils accordent à ce projet-là. Ça fait que les contrats ont été donnés aux 2 firmes. La semaine prochaine, il y a soit le 25 ou le 26, là, ça va être précisé. On devrait rencontrer ces 2 firmes-là pour discuter avec eux autres pour voir le mandat qu'on les a donné pour voir comment ça va être réalisé. L'AGA est en préparation. Elle devrait se tenir à Lorainville le 22 novembre. Mettez ça à vos enfants là, ceux qui veulent y être présents.
Fait que tout va bien là-dessus. Fait que, comme je vous dis encore, on vous remercie, Argan des municipalités, un gros remerciement pour avoir tenu, nous avoir aidé dans ce projet-là. Question.
Question pour Daniel. Merci beaucoup à Belle-Terre. Alors.
C'est pour l'instant de la population, seulement.
Pas seulement les membres de l'OAP. Ça va pour tout le monde? Alors, on va passer au point 8, fonds région ruralité. Alors, j'ai vu arriver Véronique. Oui, Véronique!
Bonsoir.
Il y avait beaucoup de dossiers.
Donc, je viens vous présenter le résultat du troisième appel au volet 1. Je vous rappelle que le volet 1 a trois dates pour le dépôt de projet. Ça s'est terminé le 27 septembre dernier. Petit rappel, on a reçu au total 8 projets pour des demandes de 142 877 sur des coûts totaux de projets de 910 828. Donc, je vais vous faire mon petit rappel depuis toutes les fois que je viens vous voir cette année. Le comité du GAM tient à rappeler que n'importe que les municipalités et les organismes qui sont soutenus pour la réalisation d'un projet s'engagent à assurer sa pérennité. Donc, on parle d'entretien, de suivi, de maintien en vie des projets pour que les investissements qui sont faits par le FRR soient porteurs et significatifs. Donc, le petit message d'intérêt public est passé. Alors, la disponibilité financière que l'on avait pour ce troisième appel était de 268 646. Je vous rappelle l'enveloppe initiale qui était de 529 185. Donc, je vais y aller projet par projet. Je crois que maintenant, on adopte un après l'autre.
Un après l'autre.
Parfait. Donc, le premier projet présenté par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Donc, c'est un parc à jeux d'eau qui consiste à aménager un parc de jeux d'eau, donc de 5 modules, au parc Richelieu qui est situé à l'intersection des rues principales et Ontario. Il y a déjà une prévision de peut-être des aménagements futurs parce qu'il y aura des installations dans la dalle de béton qui sera coulée. Et il y a aussi l'aménagement d'un vestiaire et d'une salle de bain dans un conteneur, donc qui va aussi abriter la salle mécanique pour ce projet-là. Une demande de 30 000 $, un coût total de projet de 209 208. La balance du montage financier sont en attente d'un programme fédéral pour 100 000 $ et la municipalité mettra la balance soit 79 208 $. Au niveau des faits saillants du projet, le comité du GAM a noté que c'est un projet qui était bien présenté et documenté. On parle ici de soumission de devis techniques, de plans, du visuel du parc aussi. Un projet qui est en lien direct avec les attentes des citoyens et la politique familiale de la municipalité. On avait d'ailleurs des extraits de la politique familiale qui étaient fournis au dossier, donc ça vient appuyer les demandes et le besoin. Un projet qui est axé sur la qualité de vie et qui répond à un besoin exprimé par la population lors des consultations du milieu. On avait aussi au dossier des extraits des consultations qui étaient fournis et à plusieurs reprises, les citoyens mentionnaient l'intérêt à avoir des jeux d'eau. Un projet qui démontre une mobilisation citoyenne et qui est appuyé du milieu, donc des organismes qui gravitent autour du projet. On parle de Notre-Dame-du-Nord en santé, des citoyens qui se portent bénévoles. Il y avait aussi des lettres d'appui de Nedlec et de l'école primaire. Et on mentionnait, pour consolider le financement et l'utilisation, une éventuelle collaboration avec la communauté de Témiscaming First Nation serait à valider. Donc, en termes de recommandations, on recommande le soutien financier à 30 000 $, mais conditionnel à ce que la balance du financement qui est en attente soit obtenue du fédéral.
Questions, commentaires là-dessus? Sinon, je recevrai une proposition pour Daniel, Marco. Merci. Ça va pour tout le monde? Suivant?
Oui. Deuxième projet présenté par l'organisme Laxia. Donc, c'est la réalisation d'une murale à l'Axia. Donc, deux grandes murales qui recouvreraient les deux façades visibles des locaux de l'organisme. Donc, c'est les façades extérieures et on mentionnait dans le projet que pour enlever l'effet garage de l'endroit, pour ceux qui connaissent où est situé l'Axia, la Ville-Marie. L'œuvre complétera la mise en place des projets de permaculture des enverdeurs. Donc, la partie nord va représenter un paysage de campagne et ça va intégrer le poulailler qui est déjà en place. La partie ouest aura l'aspect d'une place publique de village. Et on veut faire de l'endroit un lieu favorisant l'inclusion en offrant des activités qui s'adresseront au grand public. La demande est de 5 300 $, coût total de 16 700 $. La balance du financement vient de la députée avec 2 000 $, du propriétaire privé de l'endroit qui investit 6 900 $, de Desjardins avec 1 500 $ et l'AXIA elle-même met 1 000 $ au projet. Donc, on a noté un projet bien présenté, axé sur la qualité ici d'un milieu de vie qui favorise l'inclusion d'une clientèle avec des besoins particuliers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'organisme, dans le fond, l'AXIA dessert une clientèle adulte qui ont des besoins en santé mentale, mais aussi en déficience intellectuelle. On a noté un apport financier varié, comme je vous ai mentionné plus tôt. Ça permet la vitalisation d'un lieu qui dessert des citoyens de tout le territoire. C'était mentionné au dossier que présentement, la clientèle provient de 5 municipalités différentes. Ça vient compléter la dernière phase d'un projet novateur de permaculture qui, lui, a été soutenu par les enverdeurs ainsi que la ville de Ville-Marie. Et ça met en valeur le travail de deux artistes du territoire, soit Carole Kruger et Ginette Jubainville. On recommande le soutien financier à 5 300 $.
Ça va pour tout le monde? Vincent, appuyé Alexandre. De Alexandre, OK.
Troisième projet présenté par la municipalité de Nédélec, c'est le projet se nomme Patinoire extérieure multisport 4 saisons. Consiste à bonifier les activités extérieures en mettant à la disposition de tous des équipements pour pratiquer. Donc, on parle soccer, hockey, ballon, ballet, volleyball, basketball, badminton, tennis et pickleball. Offrir aussi des plages horaires pour des cours et la pratique de différents sports d'équipe sur la patinoire et aussi le souhait de mettre sur pied des équipes de soccer. Le montant demandé est de 9 000 $, projet total de 64 162. Sont en attente d'une subvention du ministère de l'Éducation pour les infrastructures sportives, donc de 42 988 et un financement de la municipalité qui sera de 12 174 $. Donc, au niveau des faits saillants, on a noté que c'est un projet qui est axé sur la qualité de vie et qui offre à la population locale des activités et un site accessible sur 4 saisons. On nous indiquait aussi qu'il y avait une programmation annuelle qui était à venir. Et c'est un projet qui vient optimiser l'utilisation d'une infrastructure qui est existante. Donc, le projet, ce n'est pas de construire ou d'aménager que ce soit la patinoire. Elle a été refaite en 2018. Elle est utilisable 4 saisons, mais c'est vraiment pour, je dirais, agrémenter son utilisation. C'est un projet qui était très bien documenté et très appuyé du milieu. Donc, il y avait 8 lettres d'appui, dont des lettres citoyennes, des lettres des organismes de la municipalité. C'est un projet qui se réalise en concertation avec l'école et les organismes du milieu afin de répondre aux besoins de plusieurs clientèles. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place à même la communauté pour travailler ce projet-là. Et les besoins de la clientèle sont ressortis beaucoup en lien avec la pandémie. Les gens souhaitaient avoir des activités à l'extérieur, des activités diverses. Donc, voilà. Et on a noté aussi que le FRR est un soutien financier complémentaire au projet vu la demande qui est de 9 000. Donc, on recommande le soutien financier à 9 000, encore ici conditionnel à l'adoption du financement qui est attendu par la municipalité.
Questions, commentaires? Alors, je recevrai une proposition. Martin?
Bruno,
merci. Bruno, voyez, merci, Véronique.
Quatrième projet présenté par l'organisme Sentier Urbain. Le projet s'intitule Bec et Jardin, amélioration des infrastructures. Donc, reconstruction du pont pour franchir l'un des bassins, plantation supplémentaire d'arbres et arbustes, rénovation importante des volières, réfection majeure toiture du bâtiment, d'enclos des animaux et ajout de quelques volières. Et on parle de recreuser aussi certaines portions des étangs, donc de 3 mètres de profondeur pour restaurer la vigueur écosystémique de ce milieu aquatique. Une demande de 9 210 $, coût total de 46 475 $. La balance du financement provient d'emplois d'été à 8 400 et de l'organisme qui investit 28 865 Donc, on a noté que c'est un projet qui améliore les services à la population et aux touristes qui fréquentent l'endroit. C'est un projet qui est appuyé par la municipalité ainsi que deux écoles qui fréquentent le site. On parle de l'école de Nedlec, mais aussi l'école de Ville-Marie. C'est un projet qui est complémentaire au sentier municipal qu'on a soutenu par le FRR en avril dernier. C'est des infrastructures qui sont quasi côte à côte. Là. Voilà. On a noté aussi que la demande couvre des dépenses essentielles pour la réalisation du projet, mais qui ne peuvent pas être réalisées par du bénévolat ou la main-d'œuvre qui est en place. Donc, on parle vraiment de matériaux et machinerie. Donc, la main-d'œuvre, l'expertise, les arbustes, ça sera tout fourni par l'organisme. Ce qui est demandé ici, vraiment, le 9200 est en matériaux et en machinerie. Et là, ici, on se permet de le rappeler avec le comité du GAM pour assurer la pérennité du lieu et de l'investissement. L'entretien des infrastructures est primordial et l'organisme doit s'engager en ce sens. Donc, on vous rappelle que le soutien financier du FRR n'est pas récurrent. Donc, une fois que ce sera utilisé, ça ne pourra pas être revenu. Donc, on recommande le soutien financier à 9210.
Nico, proposé par
oui,
Lynn. Nico Gervais, appuyé de Lynn H. Ça va pour tout le monde?
Projet présenté par la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues, l'amélioration du parc Richelieu. L'appellation parc Richelieu est populaire. Ça fait plusieurs parcs Richelieu.
Ça a tout commencé par les investissements des Richelieu.
Donc, ce projet-là touche quatre secteurs du parc. Donc, on parle de la mise en place d'un skatepark de 12 mètres par 22 mètres, l'acquisition d'un nouveau module pour les 0-5 ans qui répond aux normes, ainsi que la modification des balançoires. On parle d'un changement de système d'éclairage du terrain de baseball qui est non sécuritaire et de refaire les surfaces de deux terrains de tennis et de la conversion d'un des terrains en terrain multisport. La demande est de 30 000 sur un projet total de 152 951 $. La balance du financement qui est à confirmer en attente d'une subvention de 100 000 $ du ministère de l'Éducation pour les infrastructures sportives et aussi de 10 000 $ du comité récréatif de la localité. La municipalité indiquait prendre la balance du financement. Donc, à ce stade-ci, elle est à 12 951, mais en fonction des réponses des subventions, elle peut augmenter. Donc, dans les faits saillants, on a noté que c'est un projet qui est axé sur la qualité de vie, qui répond à des besoins exprimés par la population, entre autres au niveau du terrain de tennis et multisport, et en particulier pour les jeunes. C'est vraiment une demande qui provient des jeunes du milieu pour le skatepark. Un projet qui s'appuie sur un diagnostic qui était au dossier, un diagnostic fait par les professionnels de chez Loisirs et Sports. Donc, certains modules étaient à changer, les balançoires, on le voyait bien, et ça vient aussi répondre à différents enjeux de sécurité pour les utilisateurs des infrastructures, entre autres aussi au niveau du système d'éclairage. Le dossier était bien documenté au niveau technique et financier, mais comportait une seule lettre d'appui qui provenait du comité récréatif. Et on a noté qu'il aurait été intéressant qui est une référence à la politique familiale de la municipalité, ça aurait été une plus-value au dossier. Donc, on recommande tout de même le soutien financier à 30 000 $.
Luc, tu fais la
proposition. Un commentaire, si on voudrait féliciter la municipalité de Guigues, c'est la première fois qu'ils présentent un projet depuis que ça existe. On leur reste très surpris. Félicitations.
Parce que
nous,
ils disent qu'on est bien nantis.
Luc, je comprends que tu en fais la proposition.
Non.
Non?
On en fait une autre proposition. Moi, je fais partie du comité. Je ne fais pas de proposition.
Correct. Excusez. André, merci d'abord. André Paquette fait la proposition. Je suis appuyé par Daniel Barrette. Bon, même s'il considère que tu es bien nantis, Carmen. Oui. Ça va pour tout le monde, ce projet-là?
Je viens d'avoir. Son supplément.
Franchement.
Donc, un projet qui a été présenté par l'organisme Groupe Images. Donc, projet Second Souffle, logements sociaux pour hommes et pères. Il s'agit de. Ben, père, un papa. Il s'agit de rendre disponibles 4 à 5 logements sociaux aux hommes et aux pères provenant de milieux socio-économiques défavorisés. Ce sera un service d'hébergement de transition qui permet aux personnes et familles socialement isolées de s'actualiser en étant accompagnées. Donc, la clientèle bénéficiera d'un logement de transition à faible coût pour une période supérieure à 1 an, avec un accompagnement psychosocial et un soutien communautaire jusqu'à la réalisation de leur projet de vie. La demande était de 30 000 $ pour un coût de projet total de 283 956 $. Je vous amène tout de suite à la recommandation. Le comité du GAM a noté qu'étant donné l'envergure du projet et le nouveau service territorial qu'il représente, on recommande que le projet soit soumis au volet 2, projets spéciaux. Donc, puisqu'il cadre davantage avec ces critères-là. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça importe de changer de tableau. Mais, dans le fond, le volet 2, ouvert en continu, n'a pas nécessairement de limite au niveau financier. Donc, toujours le même projet. Une demande de 30 000 au volet 1, aucune limite au volet 2. Je vous disais que la balance du financement là, sur 283 956 $, sont allés chercher, c'est tous du financement, ce que je vais vous nommer, qui est confirmé. Donc, Lutte à l'itinérance, qui est un fonds au fédéral, 60 000 $, Desjardins, 18 000 $, Belle cause pour la cause, 20 000 $ et 5 000 $ en provenance de la députée. Et l'organisme y met un 100 000 $. Donc, les dépenses qui sont liées à ce projet-là, c'est sûr, il y a un achat d'immeubles, des frais au niveau notaire courtier, des travaux d'aménagement de logement et de l'ameublement. Donc, on a noté au niveau des faits saillants, un projet d'envergure qui vient doter le territoire d'un nouveau service dont les besoins sont constatés. C'est un projet novateur qui met en place une offre alternative aux besoins de logement et qui s'adresse vraiment à une clientèle qui est spécifique. C'est un projet complet, bien documenté. Donc, on avait photos, budget, confirmation. On avait même des budgets de fonctionnement annuels parce que ça deviendra par la suite des logements. Donc, on a noté des appuis financiers confirmés et diversifiés. Un projet qui démontre sa pérennité et qui a déjà des avenues de développement. Elle nous mentionnait le lieu qui a été acquis permettrait d'aménager un atelier de travail et ils sont déjà en discussion avec le Centre Frères Moffett pour que les pères qui bénéficieraient des logements puissent suivre des formations créditées par le Centre Frères Moffett. C'est un projet qui reçoit l'appui des partenaires du milieu. On parle de la table en santé de l'Abitibi-Témiscamingue, de la table en santé mentale du Centre Frères Moffett ainsi que de la ville de Ville-Marie. Dans le fond, notre recommandation, on suggère que lorsque le projet nous a été soumis, il y avait toujours une recherche de financement de 50 000 $, sans compter la demande adressée au volet 1 qui était de 30 000. Donc, avec tous ces éléments-là en tête, on recommande de soutenir le projet au volet 2, mais pour un soutien de 60 000 $, ce qui viendrait à avoir un manque à gagner pour l'organisme à 20 000 $, mais il y avait déjà annoncé au projet des pistes de recherche de solutions pour du financement, entre autres des entreprises privées ou des commandites et tout. Donc, la recommandation est à 60 000, mais au volet 2.
Questions, commentaires sur ce dossier-là? Non, je recevrai une proposition. Marco, appuyé de Bruno. Merci beaucoup. Peut-être parler rapidement des deux autres...
Il y a un projet qui a été déposé par Saint-Eugène de Guigues, l'éclairage du terrain de baseball, donc avec des lumières d'ailes, une demande à 19 367 $, projet total de 117 376 $. Donc, le comité a noté que c'est un projet qui était peu détaillé, qui n'avait aucun appui du milieu ou des utilisateurs potentiels, et non plus, il n'y avait pas de référence au développement envisagé par la municipalité avec la réalisation de ce projet-là. Donc, en termes de recommandations, le comité indique que nous aurions été favorables au projet si ce dernier avait été présenté avec un aspect de développement du lieu. Donc, par exemple, avec un lien politique familial ou une collaboration avec l'école qui est à proximité. Et le dossier peu étoffé ne nous permet pas de le recommander par souci d'équité pour les autres projets qui ont été déposés. Et le tout dernier est un projet présenté par la municipalité de Guérin. Donc, l'agrandissement et l'éclairage du sentier glacé. Donc, agrandir le sentier de 500 mètres, installer un éclairage, ajout de gravier et coupe d'arbres et aménagement d'un sentier de raquettes en partie. La demande était de 10 000 sur un projet total de 20 000. Encore ici, dossier peu détaillé, sans plan ni photo, donc difficile de saisir l'ampleur du projet. Il n'y avait pas non plus de soumission qui venait appuyer les coûts de projet. Donc, le comité du GAM aurait été favorable au projet, mais le dossier peu documenté ne nous permet pas de le recommander par souci.
Sur les deux derniers projets, évidemment, les promoteurs sont invités à revoir leur proposition puis aller documenter plus avant. Bien entendu. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Merci beaucoup, Véronique.